franceinter.com. Le téléphone sonne. 01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir. Une migraine, un cœur fatigué, un bobo estival, une grosse déprime, un petit virus, une douleur qui ne passe pas. Vous consultez votre médecin, il vous prescrit les médicaments qui vous rendront la santé, ce n'est pas très compliqué. Nous sommes, en France, les plus gros consommateurs de médicaments d'Europe. Il faut dire aussi que nos pharmacies regorgent de produits réconfortants. Elles en comptent plus de 12 000. Ces comprimés, ces cachets, ces pommades, ces gels, ces ampoules, ces vaccins nous aident à vivre mieux et plus longtemps. Voilà pour la généralité. À y regarder de plus près, ils ne sont pas exempts d'inconvénients. Ce qui améliore la santé de Madame X peut détériorer celle de Monsieur Y. La pilule miraculeuse pour l'un se révélera mortelle pour l'autre. C'est comme ça. Les médicaments doivent être maniés avec précaution. Ce ne sont pas des objets anodins. Et si nous parlions de leurs effets indésirables? Invité de cette émission, ils répondront à vos questions, Gérard Bapt, médecin cardiologue, député, président de la mission d'information sur le Mediator et la pharmacovigilance à l'Assemblée nationale, rapporteur de la mission santé à la commission des finances de l'Assemblée. Georges-Alexandre Imbert, président de l'association d'aide aux victimes des accidents de médicaments. Christian Lajoux, président du LEM, cet acronyme désigne les entreprises du médicament. Il est en duplex d'Avignon, de France Bleu Vaucluse. Et enfin, par téléphone, Dominique Maraninki, directeur général de l'AFSAPS, l'Agence française de sécurité des produits de santé.
01 45 24 7000.
Beaucoup de questions ce soir au standard de France Inter du téléphone sonne. La première nous vient de l'Indre. Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, alors je voudrais effectivement attirer l'attention des personnes présentes dans le studio sur le fait que, effectivement, seules les victimes du Mediator bénéficient d'un régime d'indemnisation spécifique, alors qu'il y a beaucoup d'autres victimes d'accidents médicamenteux graves, de victimes de médicaments et de vaccins, et pour ces personnes, rien n'a été fait. Et apparemment, ce sujet avait été abordé effectivement dans le projet de réforme du médicament qui a été présenté au Conseil des ministres, mais il n'y a rien de concret à ce sujet. Donc je me permets d'interroger les participants à cette émission pour savoir ce qu'ils pensent de ce problème.
Ils vont vous répondre, mais Daniel, vous-même êtes-vous victime d'effets indésirables d'un médicament ?
Non, moi personnellement, je ne suis pas victime des médicaments, mais ma fille a été victime du vaccin de l'hépatite B notamment. Elle a été victime d'une sclérose en plaques à la suite de la vaccination.
Pas mal d'interventions ce soir à propos justement du vaccin de l'hépatite B. Il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours le cas, on avait incité les parents de collégiens ou de lycéens à les faire vacciner contre l'hépatite B. Nous y reviendrons. Gérard Bapt, vous avez entendu la question de Daniel. Indemnisation pour les victimes du Mediator et pas pour les autres?
Oui, je pense que c'est une grande contradiction qui apparaît avec un sentiment d'injustice très fort qui s'exprime dans de nombreuses associations représentatives de patients. Alors dans le cas particulier du vaccin contre l'hépatite B, le paradoxe, c'est que lorsque l'État rend obligatoire la vaccination contre l'hépatite B, notamment chez les professionnels de santé ou dans les professionnels des services de secours qui déclenchent une sclérose en plaques, il les indemnise. Par contre, les autres ne le sont pas.
Georges-Alexandre Imbert.
Oui, de toute façon, c'est vraiment épouvantable ce qui arrive avec cette affaire du Mediator, mais comment ne pas indemniser les victimes du Vioxx, celles de l'Agréal, toutes ces femmes qui ont été défigurées, elles ont des dyskinésies faciales, des choses absolument épouvantables, des problèmes psychologiques très importants, et elles ne peuvent pas communiquer un dossier à ce fonds d'indemnisation qui est réservé aux seules victimes du Mediator. Je me pose vraiment la question, pourquoi uniquement le Mediator? De toute façon, les responsabilités pénales, c'est une autre affaire. Mais l'indemnisation des victimes, on doit indemniser toutes les victimes, c'est une question d'équité.
Je vous rappelle, Georges-Alexandre Imbert, que vous présidez l'association d'aide aux victimes des accidents de médicaments. Dominique Maraninki, vous êtes en ligne avec nous ?
Oui, bonjour.
Bonjour, vous avez entendu la question et l'intervention de Daniel. Alors, est-ce que le projet de loi présenté par le gouvernement et par le ministre Xavier Bertrand est incomplet ?
Alors, le projet de loi couvre de très nombreux aspects. Hein. D'abord, il veut rétablir la transparence dans les décisions concernant les médicaments. Il renforce le système de vigilance des décisions sur l'évaluation continue du bénéfice du risque des médicaments et donc aussi des vaccins. Il a un volet très important sur la formation et l'information du public et des professionnels. Il ne couvre pas en soi le problème de l'indemnisation. Par contre, la mise en œuvre d'une évaluation qui permettrait de conclure que des incidents repérés par le système de pharmacovigilance sont liés à la toxicité d'un médicament doit pouvoir déclencher un système d'indemnisation puisqu'il analyse l'imputabilité du médicament. Je vous rappelle que dans plusieurs crises sanitaires, le Fonds national d'indemnisation a pu agir en dehors du médiateur. Ça a été le cas pour les victimes de la radiothérapie. Pour l'hépatite B, M. Bapt a expliqué que la situation est assez paradoxale puisque c'est uniquement dans les cas de vaccination obligatoire que les personnes qui ont des effets secondaires peuvent recourir à ce fonds. Donc c'est un travail permanent que de dissocier l'analyse des effets secondaires et l'indemnisation de victimes qui auraient eu des effets secondaires avec des séquelles.
Dominique Maraninki, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence française de sécurité des produits de santé, qui doit changer de nom d'ailleurs bientôt, hein.
Ça va s'appeler l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Oui. Le terme sécurité, vous voyez, est très renforcé. Et le domaine du médicament est un domaine particulièrement sensible.
Sur le fond, ça ne change pas grand-chose.
Le nom ne change pas grand-chose. Par contre, l'AFSAP, c'était un peu trop abstrait. Il est clair que la population a besoin de savoir que l'État s'engage dans la sécurité du médicament et des produits de santé et engage sa responsabilité et sa capacité de vigilance et de décision.
128 000 hospitalisations par an en France du fait d'effets indésirables des médicaments. Est-ce que c'est juste comme estimation ? J'ai lu ça ici et là.
Alors, le système de pharmacovigilance français a recueilli en 2010 52 000 déclarations d'effets indésirables. Il y en a 31 000 qui viennent des centres régionaux de pharmacovigilance, qui sont le plus dans les centres hospitaliers universitaires. Et parmi ceux-ci, il y a eu 18 000 quand même événements indésirables graves qui ont été identifiés. Les autres déclarations viennent des compagnies industrielles. Donc on voit que l'exposition aux médicaments chez des personnes malades, bien évidemment, peut entraîner en soi des toxicités secondaires. Et c'est pas le repérage de ces toxicités qu'on peut corriger la manière d'utiliser des médicaments correctement. Et il faut vraiment être particulièrement vigilant sur l'importance de la déclaration, qui est encore insuffisante en France. Et on vient d'ouvrir la possibilité de déclarer des effets indésirables aux patients. Cela avait été expérimenté pendant la grippe et maintenant c'est une mesure qui est générale afin qu'on puisse corriger des effets indésirables, modifier les indications des médicaments avant qu'il y ait des conséquences trop graves.
Christian Lajoux, vous êtes en duplex d'Avignon ?
Oui, bonjour.
Bonjour. Pour pouvoir faire une demande d'indemnisation, dire qu'on a été victime d'effets indésirables, moi je préfère l'expression effet indésirable et effet secondaire, je ne sais pas si c'est une grosse différence, mais effet secondaire ça peut vouloir dire que ces effets-là sont mineurs, alors que parfois ça peut être mortel. Donc les effets indésirables des médicaments, quand on veut démontrer qu'on est victime et obtenir éventuellement une indemnisation ou une prise en charge quelconque, il faut pouvoir démontrer que le médicament contient des effets indésirables. On peut aller très loin comme ça, finalement. Est-ce que le fabricant, le producteur du médicament n'a pas toujours raison à ce jeu-là ?
Alors, le producteur du médicament n'a pas toujours raison. Moi, je partage effectivement le souci des patients qui sont l'objet d'accidents lors de l'utilisation de médicaments, de trouver effectivement les moyens d'une réparation. Mais je ne voudrais pas non plus que l'on apporte ce soir une tonalité trop négative par rapport aux médicaments, puisque vous avez apporté des chiffres qui ont d'ailleurs été corrigés par Dominique Maranecki. Oui, effectivement, il y a des effets indésirables. Parmi les effets indésirables, il y en a de faibles, il y en a de beaucoup plus sérieux. Mais il ne faut surtout pas oublier que les médicaments, c'est fait pour soigner et que les médicaments permettent des progrès thérapeutiques énormes. C'est l'occasion également de rappeler qu'il n'y a pas de médicament anodin. Il n'y a aucun médicament anodin. Et sous le contrôle des autres invités, je me permettrai même d'ajouter qu'il n'existe pas de médicament sans effet indésirable. Et peut-être au cours des dernières années, avec le souci de vouloir afficher en permanence du progrès thérapeutique et de vouloir faire reculer les limites de la maladie, de vouloir à tout prix gagner sur la vie, on a peut-être pu laisser penser, peut-être nous-mêmes industriels sommes-nous responsables, que l'on pouvait soigner les pathologies les plus lourdes avec des médicaments qui pouvaient être utilisés facilement. Et je pense que les événements récents nous rappellent que le médicament est toujours une substance que les patients ingèrent et qu'ils doivent toujours prendre sous le contrôle d'un professionnel de santé, du médecin ou du pharmacien, et qu'ils font toujours l'objet de ce que l'on appelle un rapport bénéfice-risque. Et le bénéfice, c'est-à-dire les effets bénéfiques pour le patient, doivent évidemment toujours l'emporter sur les risques. Alors il y a énormément de technologies dans le médicament. Je crois qu'il faut... Il faudrait comparer la technologie du médicament à celle d'un Airbus, et il est évident que ces substances ne peuvent pas ni être prescrites, ni être distribuées de façon anodine. Et je constate effectivement qu'on a quelquefois voulu banaliser le médicament. Il faut rappeler, et en tout cas nous, industriels de santé, nous le rappelons en permanence, il faut rappeler que le médicament n'est pas un produit comme les autres.
Il n'existe pas de médicament sans effet indésirable, Gérard Bapt disait à l'instant, Christian Lajoux. Est-ce que c'est acceptable ?
Oui, c'est acceptable, parce que le comprimé d'aspirine peut lui-même déclencher une hémorragie intestinale. Mais il y a deux aspects. Il y a d'une part le fait que ces effets indésirables, ils sont parfois tellement graves pour le malade que le bénéfice en est dissipé. Et puis la seconde chose, c'est que dans ces 5% d'hospitalisation qui sont dues aux médicaments, il y a aussi les erreurs, la iatrogénie, c'est-à-dire soit les erreurs de prescription, soit des interactions de médicaments entre eux qui ont des effets indésirables parce qu'ils agissent en synergie. Soit encore parce qu'il n'y a pas suffisamment de surveillance. Une personne âgée, par exemple, l'été, lorsqu'elle est déshydratée, elle va moins éliminer son médicament. Il faut adapter la posologie. Donc c'est quelque chose de très complexe et ça renvoie non seulement à la façon dont le médicament est mis sur le marché, mais aussi à la façon dont il est prescrit. Et à cet égard, un élément important qu'il faudra traiter sur le plan législatif, c'est que la formation initiale et la formation continue des médecins soient sur une base objective, scientifique, indépendante. Et à l'heure actuelle, nous avons considéré dans les différents rapports d'information, notamment celui de l'Assemblée nationale, que ces aspects de formation continue ou initiale des médecins étaient trop sous l'emprise de l'industrie. La seconde chose que je voulais dire concernant les effets indésirables, c'est qu'il n'est pas normal que ce qu'on appelle l'ALEA, thérapeutique diffus, c'est-à-dire qu'un médicament, on sait qu'il a quelques effets indésirables, parfois graves. Les anticoagulants, par exemple, ils sont indispensables. Mais ils entraînent très certainement plusieurs milliers d'accidents graves dans notre pays tous les ans. Mais cet aléa thérapeutique diffus, il faut aussi qu'il soit pris en compte dans l'indemnisation. L'automobiliste, lorsqu'il subit un accident de la circulation qui n'est pas de sa responsabilité, il est quand même indemnisé. Ce n'est pas parce que l'incident ou l'accident thérapeutique est indiqué sur la notice qu'il ne faut pas prendre en considération le sort de cette victime qui, elle, a en quelque sorte subi le côté négatif de la médication. Voilà pourquoi je pense que le projet concernant l'indemnisation, c'est une bonne chose qu'il ait été mis en place rapidement pour le médiateur. Mais il n'est pas sain que ce soit à chaque fois des fonds spécifiques dédiés à tel ou tel drame sanitaire qui soient mis en compte, mis en place. Il faut, je pense, prendre le problème globalement et accepter que ce soit la solidarité pour ceux qui, bien qu'un médicament soit bénéfique, parfois en subit les inconvénients.
Une réponse courte, s'il vous plaît, de Christian Lajoux des entreprises du médicament avant de prendre la question de Sophie qui nous attend en Poitou-Charentes.
Oui, un petit mot par rapport à ce que dit le député Bapp sur la pression ou sur la présence de l'industrie du médicament dans la formation des médecins ou dans l'information des médecins. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses et on a entendu beaucoup de propos qui ne sont pas exacts sur ce plan-là. Je voudrais redire que l'industrie du médicament effectivement participe à l'information des médecins, que l'industrie du médicament participe à la formation des médecins, mais qu'elle n'en revendique pas l'exclusivité. Pendant des années, face à un vide financier, puisqu'il faut appeler les choses telles qu'elles se présentent, les industriels du médicament ont effectivement permis aux médecins français de participer à des congrès, de participer à des forums de formation médicale continue ou de participer à l'évolution de la connaissance dans le pays.
C'est ce qu'on appelle conflit d'intérêt maintenant aussi, parce que le reproche qu'on peut vous faire aux médecins...
Une participation, une coopération entre un industriel et un médecin n'est pas un conflit d'intérêt. Il devient un conflit d'intérêt lorsque le médecin qui a travaillé pour une entreprise se trouve dans la situation d'être juge et partie et de participer par exemple à une commission dans laquelle il évaluerait un médicament. Donc là, il y a un conflit d'intérêt. Mais une collaboration transparente, et je me réjouis d'ailleurs sur ce point des éléments du projet de loi qui va être débattu au Parlement dans les prochaines semaines, une coopération en toute transparence, en disant précisément qui fait quoi, avec qui et pourquoi, n'est pas un conflit d'intérêts. Ça, c'est un point sur lequel, je pense, qu'il faut préciser en permanence. Ça devient un conflit d'intérêts quand c'est caché par certaines personnes qui ont le pouvoir, effectivement, de juger un médicament d'une entreprise par laquelle ils ont été rétribués à l'occasion de travaux. Et je me réjouis, moi, personnellement, du projet de loi qui va être discuté, qui fera toute la transparence sur ce point qui me semble essentiel. Je tiens à préciser que les industriels demandaient qu'il y ait un Sunshine Act à la française, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, le Sunshine Act étant un processus, une
démarche. Faites court, s'il vous plaît, Christian Lajoux, parce que nous avons des auditeurs qui attendent, oui. Et vous êtes un peu long là. Donc je vous interromps, Sophie est en ligne de Poitou-Charentes. Sophie ?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Moi, j'aurais souhaité poser la question suivante, c'était de savoir pourquoi le risque d'accident médicamenteux grave n'était-il pas couvert par les industriels qui commercialisent les médicaments, puisque ce risque est accepté par les autorités et connu notamment puisqu'il est indiqué sur les notices. C'est lancer un produit et pas assumer ensuite les défauts. Même si on parle bénéfice-risque, les gens qui présentent ce risque et qui en sont victimes avec des effets parfois très très délétères et des conséquences très très graves, se retrouvent complètement seuls. Et ça, c'est inacceptable.
Georges-Alexandre Humbert, vous voulez répondre peut-être pour les victimes des accidents des médicaments ?
Bah oui, pour les victimes des accidents des médicaments, il est évident que... Mais d'abord, j'aurais voulu quand même revenir sur les propos du directeur général de l'AFSAPS. Tout ce qui est pharmacovigilance ne fonctionne pas. On s'en est bien aperçu avec le médiateur, puisque pendant une trentaine d'années de mise sur le marché, il y a eu très très peu de retours de ces documents.
Il était interdit en Belgique en 1999 et en France en quelle année, ce médicament ?
Il a dû être interdit en 2007.
En 2007. Je pense,
oui. Et de toute façon, il n'y avait pas de déclaration. Et quand les déclarations arrivent à l'agence... de toute façon, elles sont très peu nombreuses, elles ne sont pas prises en considération, il faut qu'elles soient validées, c'est très compliqué. Donc la pharmacovigilance, il faut revoir tout à fait ce système qui ne fonctionne pas. Alors maintenant, la notice, pour revenir à la question de cette auditrice. La notice, ce n'est pas un contrat. La notice, c'est simplement quelques informations, des informations qui sont à la discrétion du laboratoire pharmaceutique, ça ne veut rien dire. Ce n'est vraiment pas fiable. Ce n'est pas fiable, et ça, il faut absolument que la notice ne soit pas opposable dans des procès aux victimes. Le doute ne doit pas profiter à l'accusé, il doit profiter à la victime.
C'est ce que dit Xavier Bertrand, voilà. Vous êtes sur la même ligne que le ministre.
Écoutez, oui, je suis rarement d'accord avec Xavier Bertrand, mais pour une fois, j'approuve ce que dit le ministre, le doute doit profiter à la victime, les victimes doivent être indemnisées.
Dominique Marinaki, vous voulez dire un mot là-dessus, peut-être ?
Oui, je veux dire un mot.
Pour l'AFSAPS.
Pour l'AFSAPS. Et puis
essayez de faire court, vous, que je ne vois pas, parce que je ne peux pas vous interrompre du regard ou d'un geste. Et vous risquez d'être trop long, et c'est un petit peu difficile à gérer. On ne peut pas prendre d'auditeur après, c'est un peu dommage, parce que ça s'appelle le téléphone sonne.
La vraie question, c'est le bénéfice qu'on doit pouvoir tirer d'un médicament à l'échelle individuelle et à l'échelle collective. Et c'est, le bénéfice, il est pour une seule personne, il est pour la personne malade. Donc on doit changer notre système d'observation, et c'est sûr que la pharmacovigilance n'était pas encore assez puissante. Et c'est vrai que culturellement et pratiquement, la majorité des médecins, des malades, investissent plus sur les effets bénéfiques et oublient un peu les risques. Et bien ça, le projet de loi et le drame qu'il y a eu autour du médiateur va le changer complètement. Chaque fois qu'on fait une prescription, on le fait pour le bien, mais on le fait avec attention. Je voudrais insister sur l'importance de la juste prescription à la juste personne. On a vu que dans l'exemple du médiateur, 50% des prescriptions du médiateur et même plus se faisaient en dehors de l'indication. Donc notre système doit être précis. Il faut que les malades, les médecins, les autorités sanitaires et les industriels tremblent un peu chaque fois qu'on fait une prescription et qu'on corrige le tir très rapidement. Il faut éviter qu'il y ait des victimes. Et c'est toute l'attitude nouvelle de prévention qui va consister à corriger les effets secondaires des médicaments. Et j'entends les effets secondaires, pas uniquement les catastrophes sanitaires, avant que ça soit trop grave, de façon à pouvoir offrir un progrès thérapeutique continu, mais qui prenne en compte systématiquement les risques, qui occasionnellement d'ailleurs doivent être discutés directement entre le médecin et le malade. Et c'est le médecin qui aussi, pour chaque malade, parce qu'on va vers une médecine de plus en plus personnalisée, va pondérer les avantages et les inconvénients de cette prescription au milieu d'autres pour le traitement d'une maladie. Donc c'est ce changement qui est en cours.
Christian Lajoux, vous avez entendu la question de Sophie, donc je la répète, pourquoi le risque d'accident médicamenteux grave n'est-il pas couvert par les industriels qui produisent ces médicaments?
Alors, il est quand il y a un accident thérapeutique, le risque, il est couvert en fonction, effectivement, de ce qui est décidé par les tribunaux qui sont concernés ou d'accords qui peuvent exister entre l'entreprise et, effectivement, les patients. Il y a un point sur lequel je veux revenir et qui répond au souci de l'auditrice. Monsieur Imbert dit que la notice est fantaisiste et que les industriels racontent n'importe quoi là-dessus. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça, mais ça veut dire ça. C'est complètement faux. La notice qui est dans la boîte de médicaments est toujours contrôlée par l'AFSAPS. Dominique Maranecki pourra effectivement en attester. Donc il ne s'agit pas d'une information fantaisiste. Et pour faire court, je voudrais rappeler que les industriels sont toujours sous le contrôle des autorités de santé, en France comme dans tous les pays, en Europe et dans le monde entier. Ce n'est pas pour autant que cette situation doit les dédouaner de leurs responsabilités. Et il y a de nombreux cas, on les connaît, où les industriels assument leurs responsabilités, y compris lorsque certains éléments ont été précisés dans telle ou telle notice. Mais vous comprendrez également qu'il est important dans un pays de droit, que notre système de droit, notre système de justice puisse effectivement imputer la juste responsabilité des entreprises face à une prescription. Occasion pour moi de rappeler que le médicament n'est pas anodin, que le médicament doit toujours être prescrit sous le contrôle du professionnel de santé. Lorsque le patient, parce qu'il est important que le patient retrouve confiance dans
vous
le médicament
faire bref,
et dans son médecin, je fais bête, lorsque le patient constate des effets secondaires, il doit effectivement en parler au médecin, avec mes excuses pour la durée de l'intervention.
Olivier est à Paris. Olivier, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous voulez revenir sur la notice, vous, je crois.
Oui, s'il vous plaît. Je souhaitais apporter un témoignage, notamment sur la notice. Et j'entends bien votre intéressante discussion, notamment sur l'information, sur l'aléa thérapeutique et également sur le fait que les laboratoires doivent assumer leurs responsabilités. Mon époux, il y a quelques années, suite à l'absorption d'un médicament qui s'appelle le Bactrim, des laboratoires Roche, il n'était pas à l'époque contre-indiqué d'effets secondaires qui imputeraient un syndrome dans la notice. Je crois qu'aujourd'hui c'est corrigé. Néanmoins, cette maladie comporte des taux de mortalité de 30% et encore plus chez les jeunes enfants. Je me suis renseigné lors de cette maladie. J'ai rencontré une personne dont le fils était décédé à 2 ans à Genève. Il y a eu beaucoup de médiatisation en Grande-Bretagne, notamment dans le Sunday Times, par un journaliste qui s'appelle Brian Deer, D-E-E-R, intitulé The Secret Epidemic, le Bactrim, qui n'a pas du tout été relayé en France. Il y a des cas terribles en Afrique où on a des grands problèmes de diagnostic avec énormément de décès sur la prise de ce Bactrim et on n'en parle pas.
Il y a eu beaucoup de questions ce soir sur le syndrome de l'aïeul, de gens qui sont atteints et qui ont des proches atteints du syndrome de l'aïeul. Je vous avoue que je ne savais pas ce que c'était le syndrome de l'aïeul. J'ai vu que c'était dû effectivement à une prise médicamenteuse. Dites-nous quels en sont les symptômes.
C'est effroyable.
Écoutez, c'est assez terrible. Mon épouse, on brûle de l'intérieur, il y a un décollement de la peau très important, on devient aveugle, mon épouse est devenue aveugle, elle avait 25 ans, elle a perdu tous ses poils, elle a été à Henri Mondor sur le lit à coussin d'air pendant plus d'un mois, et lors d'une perfusion, elle a inoculé une hépatite pour laquelle elle est toujours soignée aujourd'hui.
Et ça survient 7 à 21 jours après la prise du médicament, c'est ça ?
Oui, c'est ça, 8 à 10 jours après, selon les cas. C'est une maladie ainsi que le syndrome de Steven Johnson qui est connu. Il y a des class action aux États-Unis, mais on n'en parle pas en France. Et comme pour tout risque, toute action pour la sécurité routière, les accidents de la route, on montre des histoires chocs et on ne parle pas de ce genre de choses. C'est dommage. J'ai fait 10 ans de procédure correctionnelle au pénal en France et à chaque fois, les dossiers de fond n'étaient pas extrêmement étudiés. J'avais l'impression que les photos avait un effet plus important sur les juges et je trouve dommage que l'on n'en parle pas suffisamment et je vous remercie pour votre émission.
L'AEL, c'est
à l'époque avec Robert Mamias.
L-Y-E-2-L. Georges-Alexandre Imbert.
Oui, notre association a effectivement beaucoup de dossiers concernant ce problème de syndrome de l'AEL et sur plusieurs catégories de médicaments. Je crois qu'on est vraiment là dans le cas de l'aléa thérapeutique parce que je connais des personnes qui prennent régulièrement, par exemple, le Bactrim, puisque ce médicament a été cité, et il ne se passe pas grand-chose. Mais d'autres, un seul comprimé, deux comprimés, et c'est la catastrophe. Donc pourquoi ces personnes ne peuvent-elles pas être indemnisées et que c'est absolument anormal de les traîner pendant des années devant les tribunaux.
D'après ce que disait Olivier, le risque n'était pas indiqué dans la notice, au moins lorsque son épouse s'est trouvée atteinte de cette maladie, de ce syndrome de l'AEL.
Oui, mais
donc normalement, il devrait être plus facile d'obtenir une indemnisation lorsque le risque n'est pas précisé.
Oui, ça ne change pas grand-chose, puisque la notice, ce n'est pas un contrat. Et c'est cela
on
que
en
je soutiens.
On en revient à ça.
Puisqu'on va toujours devant les tribunaux, il faut signer un contrat.
Gérard Barton. La notice est importante parce qu'elle signale des effets indésirables, mais elle a deux inconvénients. C'est qu'il faut qu'elle soit connue et que les médecins en tiennent compte. Or, il y a une pharmacopée tellement dense, tellement trop importante en France,
12 000 médicaments.
Que c'est difficile pour le médecin généraliste, lorsqu'il marque son antibiotique, de connaître surtout des effets indésirables comme celui-là qui était inconnu. Vous savez, pour le médiator, les cardiologues n'ont jamais vu de valvulopathie tant que ça, il n'y a pas eu l'explosion médiatique dans la presse. Il y a aussi une autre affection qui s'appelle la myofasciite macrophage qui est maintenant reconnu, mais au départ, les gens étaient plutôt adressés en psychiatrie parce qu'on disait c'est pas possible, vous plaignez de choses qui n'existent pas. Donc cet aléa thérapeutique diffus, la difficulté supplémentaire vient de ce que parfois les conséquences de telle ou telle molécule ne sont encore pas connues. Et dans ces cas-là, il faut que le doute scientifique profite aux patients et pas aux produits. Or c'est ce qui s'est produit au cours des dernières années, pas seulement d'ailleurs en France ou en Europe, mais aussi aux États-Unis. Et il est important que dans la loi prochaine soit inscrit en clair que le doute devra profiter aux patients et pas aux produits. Autre chose enfin, lorsqu'aujourd'hui l'effet indésirable est connu, est indiqué dans la notice, la responsabilité n'est pas au laboratoire, parce qu'à ce moment-là, il dit « mais c'est indiqué dans la notice, donc ma responsabilité est dégagée ». Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une petite minorité de patients à qui est prescrit une molécule, qui pour une grande majorité va être bénéfique, subissent tout seuls dans leur coin des effets indésirables qui sont connus, qui peuvent être graves. Voilà pourquoi je pense qu'il faudra une nouvelle loi des droits des malades pour compléter le mécanisme d'indemnisation qui avait été mis en place en 2001 par Kouchner.
Il faut préciser que ces effets indésirables sont la conséquence de la prise de médicaments qui ne sont pas forcément des médicaments très sophistiqués, touchant des affections très sophistiquées. Ça peut être pour des choses
voilà
très
bénignes. Voilà le syndrome de l'AEL qui est terrible, terrible. hein, avec un médicament aussi courant, aussi connu et aussi intéressant dans certains cas que le Bactrim.
Et est-ce que les maladies génériques, on a essayé de généraliser ça, puisque ça permet de dépenser moins d'argent, c'est meilleur pour la dépense publique. Est-ce que l'arrivée des génériques sur le marché a eu une conséquence, un effet? Est-ce qu'il y a plus d'effets sur les effets indésirables?
Les génériques, d'abord, c'est assez récent. Ensuite, ça doit reconduire la même structure chimique que la molécule Princeps. Donc, en principe, ça ne doit pas apporter d'inconvénients supplémentaires. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui avec les génériques, c'est qu'ils sont de plus en plus fabriqués à l'étranger, dans des pays lointains, et la traçabilité est mal assurée, et il se passe que sur un certain pourcentage de génériques, y compris qui sont acceptés par la chaîne légale médicamenteuse, hein, pas commandés par Internet, mais fournis dans les pharmacies, il y a ce qu'on appelle des molécules falsifiées, donc qui diffèrent de la molécule dont elles devraient reproduire exactement les effets.
Dominique Maraninki pour l'AFSAPS.
Oui, deux choses. La première, à propos du syndrome de l'aïeul et de tous ces syndromes graves, pour insister sur le rôle de l'information et de la transparence de l'information. La transparence va être mieux assurée et commence à l'être grâce à la présence des associations de patients au sein de l'AFSAPS et dans les commissions, notamment dans les commissions de pharmacovigilance, car, par exemple, l'association des victimes de l'aïeul et de syndrome de Steven Johnson est parfaitement capable, lorsqu'on discute des risques et des bénéfices d'un médicament, de soulever le risque majeur que cela peut donner. Et cela change considérablement les décisions globales qui sont prises. La deuxième chose, quand même, c'est sur la sécurité et sur les génériques. Les génériques sont extrêmement surveillés, comme tous les autres médicaments. Et nous avons en France, notamment à l'AFSAPS, non seulement une responsabilité d'évaluation, mais aussi une responsabilité d'inspection et de contrôle. Et je voudrais dire que tous les établissements pharmaceutiques sont régulièrement contrôlés et que les médicaments génériques, sont, comme les autres médicaments, sont contrôlés dans leur qualité et leur sécurité. Alors bien sûr, on lutte contre les fraudes. Pour l'instant, heureusement, les fraudes sont essentiellement sur Internet et c'est l'occasion de rappeler l'importance de recevoir des prescriptions dans un cadre régulier, prescrit par un médecin traitant et délivré par une pharmacie. C'est le seul moyen de garantir la sécurité et s'il y a le moindre incident, aussi de penser à le déclarer, parce que c'est en le déclarant qu'on pourra déclencher une inspection, un contrôle et une correction.
Georges-Alexandre Humbert, pour les victimes des accidents de médicaments.
Notre association est tout à fait opposée aux génériques. On trouve que c'est... évidemment, les industriels font du forcing pour vendre davantage de médicaments en quantité, puisque les prix baissent. Pour faire autant de bénéfices, il faut en vendre davantage. Donc on fait du forcing, on fait de la... c'est absolument effrayant. Les génériques, ce n'est vraiment pas la solution.
Christian Lajoux, pour les industriels de médicaments.
Oui.
Oui. Bonsoir. Juste, moi j'ai une question à vous poser. Les tests pour la mise au point d'un médicament sont effectués sur des animaux. Est-ce qu'on est sûr que de leur fiabilité totale?
Attendez, il y a une partie des tests qui sont effectués sur les animaux, mais l'essentiel des études cliniques, la phase de développement du médicament, se fait sur des malades sous le contrôle de professeurs hospitaliers. Donc il y a énormément d'expérimentation sur des malades avant de pouvoir obtenir une autorisation de mise sur le marché. Là aussi, il ne faudrait pas laisser penser que les médicaments sont testés, le mot n'est pas très heureux, mais sont testés uniquement sur des animaux. Ça, c'est faux. Les médicaments sont testés, notamment dans les phases 2B et dans les phases 3, sur des malades qui sont suivis dans des départements hospitaliers. Il y a un point également, très vite, sur lequel je veux revenir. On parle beaucoup de médiateurs, et je ne voudrais pas qu'on laisse penser aux auditeurs qui nous écoutent et qui ont besoin d'avoir confiance dans leurs médicaments, qu'il y a de multiples affaires médiateurs. Ce n'est pas vrai. En tant qu'industriel, nous savons pertinemment que les médicaments sont régulièrement réévalués et il nous arrive régulièrement de modifier le champ des indications du médicament, d'accroître les avertissements, notamment sur l'utilisation du médicament que l'on peut voir sur la notice, et de retirer des médicaments. On est face à une situation qui n'est pas du tout emblématique de ce qui se passe entre les industriels du médicament, les agences et le personnel médical. je pense qu'il est extrêmement important d'en appeler à la responsabilité de tous, à la responsabilité de l'analyse, à la responsabilité du commentaire, mais également à la responsabilité des soignants et des patients qui, à nouveau, j'insiste sur ce point, doivent considérer qu'un médicament n'est jamais anodin. On a parlé de l'aspirine tout à l'heure. Je doute fort que l'aspirine obtiendrait aujourd'hui son autorisation de mise sur le marché.
Et une réaction de Gérard Bapt.
Oui, moi je ne suis pas d'accord, je voulais dire, par rapport à la question du générique. Si la molécule est identique, je ne vois pas ce en quoi elle pourrait être plus dangereuse pour certains, ou en quoi elle pourrait donner plus matière à profit pour l'entreprise. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de traçabilité et qu'il va falloir améliorer la surveillance de la fabrication de ces génériques lorsqu'ils sont fabriqués dans des pays lointains, par exemple en Chine. Le problème quand même de la surveillance de toutes ces nouvelles molécules qui arrivent, c'est qu'il en arrive beaucoup trop et qu'il était beaucoup plus facile de faire une admission sur le marché pour une molécule que d'en obtenir le retrait. On a considéré dans l'affaire du Mediator, mais il y a beaucoup d'autres affaires qu'on peut aussi citer dans le même cas, que d'étude en étude, on retardait le moment où la molécule allait être retirée. Et tous ces retards faisaient des victimes supplémentaires. Ça a été le cas aussi d'ailleurs pour l'isoméride, qui est le même laboratoire Servier, mais récemment, et sur la sellette, médicament qui s'appelle Lactos, et qui est utilisé chez les diabétiques. Quand on considère le nombre de médicaments présentés au cours des dernières années pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché au niveau de la FSAPS, on voit qu'on est passé de 300 ou 400 médicaments présentés à l'autorisation de mise sur le marché en 2004 à plus de 1200 l'an dernier. Il est bien clair que cette profusion de la pharmacopée entraîne une insuffisance de surveillance pour certains ou des risques de iatrogénie parce que toutes ces associations rendent un petit peu la pharmacopée difficile à obtenir dans sa compréhension et dans sa prescription pour le médecin généraliste.
Un mot de Georges Alexandre.
Oui, simplement pour dire que le générique comporte un autre problème, un problème très important, c'est qu'il n'a pas de marque. Il n'a pas de marque bien définie. Alors là, par exemple, pour le Mediator, on sait très bien que ce sont les laboratoires Servier. Et Servier est mis en cause. Pour l'Agréal, ce sont les laboratoires Sanofi. On a un nom, on a quelque chose. Tandis que pour le générique, s'il arrive un accident, on ne sait pas qui est qui et la firme disparaîtra et on se retrouvera sans interlocuteur.
Une question d'Éric dans le Finistère. Éric, bonsoir.
Oui, bonsoir à tous. Merci pour votre émission. Elle est très importante. Je suis président d'une association des victimes des antibiotiques, ce sont les quinolones. On est nombreux à être abîmés par des quinolones parce que ces antibiotiques sont distribués en très très grand nombre. Et la question que je voulais poser, c'est que contrairement à d'autres pays, on ne peut pas, les victimes ne peuvent pas se regrouper pour faire une action commune. Et en France, c'est dommageable parce que chacun dans son petit coin doit se débrouiller pour faire reconnaître. Et c'est vrai que contrairement au Mediator qui aujourd'hui a un impact médiatique important, toutes ces personnes victimes sont chacun dans leur petit coin à travers des petites associations, grosses associations, mais doivent se battre seuls. Et ça, c'est quelque chose qui est horrible financièrement.
Parce vous souhaiteriez des actions de groupe à l'américaine?
Oui, que ça soit développé, qu'au moins qu'on soit reconnu, oui, tout à fait.
Gérard Bapt, le député.
Oui, je pense que les actions de groupe, de manière à ce que les associations représentatives des patients puissent ester en justice au nom de leur mandant, concernant le problème de la causalité entre l'effet indésirable et la molécule, ça reste à faire après la mise en place du fonds d'indemnisation du Mediator. Je voulais vous dire juste un mot concernant les antibiotiques. C'est qu'à l'heure actuelle, et là c'est pas un problème d'association en particulier, c'est qu'on se heurte maintenant à un énorme problème d'antibiorésistance. Et qu'il va falloir que ce soit pour la prescription humaine ou encore plus pour la prescription animale aujourd'hui, réglementer et avoir le courage parfois de bousculer quelques intérêts économiques parce que ce problème de l'antibiorésistance va faire revenir des maladies infectieuses qu'on croyait avoir vaincues au départ avec des antibiotiques qui deviennent inefficaces.
Renforcée par le fait que, évidemment, tous ces médicaments finissent dans l'eau. Lorsque nous tirons la chasse d'eau, évidemment, ça part dans l'eau, de l'eau que nous consommons après. Et évidemment, on finit par être résistant à tous les antibiotiques. Okay. Moi, je me tourne vers Dominique Maraninki pour une dernière chose très courte, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Si demain, j'étais atteint par quelque chose, un syndrome dû à l'absorption d'un médicament, quel conseil me donneriez-vous pour être sûr d'entrer dans mes droits ?
La première chose, c'est de le déclarer directement à l'AFSAT, ce qui peut être fait de façon en protégeant son individualité, et nous pourrons traiter directement le dossier dans le cadre du système de pharmacovigilance. Donc, allez sur le site, il y a un cliquet, vous pouvez immédiatement déclarer, et nous ferons une étude d'imputabilité. Je voudrais très vite corriger quand même une erreur.
Très rapidement, hein.
Les génériques, les fabricants de génériques sont des industriels comme les autres. Ils sont responsables de leurs médicaments comme les autres. Ils sont soumis comme les autres au système de pharmacovigilance.
Eh bien, à vous entendre tous, je pense qu'il vaut mieux ne pas tomber malade.
C'était Le Téléphone Sonne, une émission dirigée par Alain Le Gouguec, attaché de production Michael Civit et à la réalisation François-Charles Domergue. Belle soirée sur France Inter, il est 20h.